Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Nemo en pisse.
Feministinnen sind alle hässlich und grässlich.
Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen.
Und jetzt mit voller Kraft in diesen Wahl.
Der Krah, der Krah, der fährt sich gern durchs braune Haar. Rechtsradikal, auch auf Social Media.
Bienvenue, nous allons en Allemagne scruter les ressorts de la séduction de l'extrême droite.
Avec l'AfD qui espère bien faire une percée lors de ces élections européennes. Elle était créditée de 22 sièges dans les sondages d'intention de vote depuis des mois, même si elle paraît aujourd'hui concurrencée par la gauche radicale, selon les données publiées cette semaine par Euractiv.
Et pour susciter l'adhésion, Nemo, l'extrême droite allemande joue la surenchère. Elle vise un nouveau public, les plus jeunes, via TikTok. Ça marche, le parti enregistre des centaines de milliers de vues sur ses vidéos et compte bien faire pencher la balance lors du scrutin du mois de juin. C'est un reportage de Salomé Enoncoa.
Un tiers des jeunes hommes n'ont jamais eu de petite amie. Toi aussi, tu en fais partie ? Ne regarde pas de porno, ne vote pas pour les Verts, va dehors, respire un grand coup, sois fier et sûr de toi, regarde droit devant toi et surtout, ne te laisse pas dire que tu dois être mignon, doux, faible et de gauche. Car les vrais hommes sont de droite, les vrais hommes ont des idéaux, les vrais hommes sont des patriotes, alors tu trouveras une copine.
Ceci n'est pas le dernier influenceur masculiniste allemand, mais bien Maximilian Krah, 47 ans, eurodéputé, et tête de liste pour les élections européennes du parti d'extrême droite allemand, AfD. Depuis des mois, l'homme, inconnu du grand public jusqu'à sa nomination par le parti en juillet dernier, multiplie les clips de ce genre sur TikTok. Ses courtes vidéos, clairement à destination des jeunes, et notamment des jeunes hommes, atteignent des records. Des dizaines de milliers de personnes les voient apparaître dans leur fil d'actualité TikTok. Et certaines atteignent même le million de vues, comme celles prônant que les vrais hommes sont de droite. Mais comment expliquer cela ? Eric Arends, militant d'extrême droite et spécialiste de la communication, a contribué à faire monter le compte de Maximilian Krah et d'autres hommes politiques de l'AfD.
Si cela n'est pas produit par les médias traditionnels ou les médias établis, alors les activistes comme moi doivent le produire avec des méthodes créatives. Et c'est comme le marketing, vous savez. Si je veux commercialiser un produit, je dois tout faire pour donner envie de l'acheter via des campagnes de pub.
Contre les grands médias, l'AfD s'organise donc. Toutes les plateformes sont utilisées pour faire passer leur message, ultra-conservateur et patriote. Mais pour Axel Zavirusha, directeur de l'entreprise Internet Warriors, de conseil en marketing, tout cela est une façon de contourner le système.
Tout d'abord, on peut y produire du contenu à très bas prix. Et tout le monde peut le faire très rapidement. On peut obtenir de très nombreuses vues très rapidement et la technologie utilisée par TikTok fonctionne très bien dans la mesure où elle filtre très efficacement les intérêts.
Alors, on reste dans sa bulle. Mais pour Axel Zavirusha, il ne faut pas se laisser berner par les chiffres d'audience de ses courtes vidéos. Même s'il ne peut pas le prouver, il est convaincu que ces chiffres sont boostés de manière artificielle et automatique par des bots, comme tout sur Internet.
Par expérience, on peut dire que la communication sur les réseaux sociaux est très souvent dominée par de faux échanges, c'est-à-dire que ce ne sont pas de vrais utilisateurs qui écrivent des commentaires. Le but est de créer de fausses informations pour déstabiliser. C'est l'une des stratégies de l'AfD.
Mais difficile de nier la réalité, l'AfD a, sur TikTok, trouvé la recette du succès. Et Eric Arends, derrière cette réussite, a un nouveau projet. Faire monter la figure de Erik Engelhardt, un jeune militant du mouvement de la jeunesse de l'AfD, Die Junge Alternative. Ce mouvement est d'ailleurs scruté par l'organe de protection de la constitution allemande pour dérive d'extrême droite. Erik Engelhardt, nouveau poulain de Arends, est basé en Thuringe, un land où l'AfD pourrait bien arriver en première place des élections législatives locales de septembre prochain. C'est l'une des raisons de son arrivée en fanfare sur TikTok. Mais après avoir posté plusieurs vidéos, Arends dit avoir été censuré par TikTok sur des contenus jugés extrémistes. Le compte a alors, pendant un temps, été fermé.
Cette censure provient de l'organisme allemand de protection de la Constitution. C'est lui et le gouvernement qui censurent, j'en suis sûr, car le siège de TikTok est à Dublin, en Europe. La plateforme est régie par le droit européen, donc bien sûr que le gouvernement fédéral a une influence sur ce qui est bloqué là-bas.
Alors, pour contrer cela, le militant identitaire a mis en place ce qu'il appelle sa guérilla TikTok, pour inonder les réseaux de ses idées AfD. De nouveaux comptes sont créés en masse pour publier et commenter.
Nous ne nous laisserons pas invisibiliser. Je ne me laisserai pas invisibiliser. Et les gens qui travaillent avec moi ne seront pas invisibilisés non plus. Nous réussirons parce que nous travaillons mieux, parce que nous utilisons les meilleures méthodes et parce que nous avons plus de volonté et de persévérance que la partie adverse.
Pour l'expert en marketing Axel Zawirusza, la seule solution, c'est de se mobiliser en vrai.
Il y a des centaines d'initiatives contre l'extrême droite de tous les âges, de tous les milieux et tous les métiers qui disent « non, maintenant, ça suffit, nous voulons vivre notre vie et nous soutenons notre démocratie ouverte avec ses principes ».
Et cela est aussi confirmé dans les faits. Après les révélations autour des plans de remigration de l'AFD, plus de 4 millions d'Allemands sont descendus dans la rue en janvier et février pour scander leur attachement à la démocratie et leur rejet des idées d'extrême droite.
Chega, 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 chega. Agora é que nós não sabemos quem será.
Au Portugal, c'est André Ventura, véritable caméléon de la politique, qui est devenu l'un des nouveaux champions de l'extrême droite européenne.
Et pour cause, Juliette, il a créé la surprise dans le pays en raflant pas moins de 18% des voix lors des législatives du 10 mars.
Et pour expliquer l'essor de l'extrême droite dans ce pays, marquant ainsi la fin de l'exception portugaise en Europe, eh bien ce sont toujours les mêmes recettes. Daniel Valot.
Des phrases percutantes et un talent certain pour utiliser les réseaux sociaux. André Ventura cartonne auprès des jeunes avec des thèmes qui le placent dans le camp très en vogue en Europe en ce moment, celui du populisme d'extrême droite. Victor Pereira, chercheur à l'Université Nouvelle de Lisbonne.
Il appuie beaucoup sur l'aspect chrétien, défense des valeurs chrétiennes, contre la corruption, contre le wokisme. Ce type de panique morale qu'il essaye d'importer. À l'étranger, notamment dans les grands rassemblements d'extrême droite, il s'aligne sur les idées de grands remplacements, sur les idées d'invasion, et donc il s'aligne sur l'extrême droite populiste.
Fort de ce succès et de ces 18% inespérés à la création de Chega, André Ventura se dit prêt à gouverner en coalition avec le centre-droit ou à l'issue d'un prochain scrutin. Yves Léonard, enseignant à Sciences Po Paris.
La stratégie de Ventura, c'est en respectant certains fondamentaux qui sont la marque de fabrique, la lutte anticorruption, l'immigration zéro, la xénophobie, toutes ces choses-là, mais aussi en s'affirmant comme un parti de gouvernement attrape-tout hein, pour venir picorer et siphonner des électorats. Ça, cette stratégie, je pense qu'il a beaucoup observé la stratégie suivie par Meloni en Italie et Orban en Hongrie. Et là, sur un fond qui offre des analogies, évidemment, il peut s'inspirer et espérer, dans un laps de temps relativement court, s'imposer.
Pour l'heure, le chef de file de la droite portugaise, Luís Montenegro, qui devrait former le nouveau gouvernement, a refusé de s'allier à André Ventura. Mais son résultat mitigé à l'issue du scrutin du 10 mars ne lui laisse en réalité que très peu de marge de manœuvre. Et de nouvelles élections ne sont pas à exclure, ce qui donnera certainement l'occasion à André Ventura de poursuivre son irrésistible ascension.
Alors que les Européennes pourraient voir une percée de l'extrême droite, des seniors se mobilisent pour les droits sociaux et la démocratie.
C'est le cas d'Hold Up, vous comprendrez le jeu de mots, puisque c'est une association de personnes âgées en France. Cette association qui organise des ateliers pour mobiliser pour les élections. Et le dernier, Juliette, a eu lieu en février.
Oui, Hold Up sans H, hein, ça signifie les vieux debout, si on veut. Diane Bossière est l'une des membres actifs de l'association. Elle participe au groupe Europe Monde de Hold Up.
L'objet central de notre journée, c'était de voir qu'est-ce qui pouvait nous rassembler comme préoccupation à tous les âges au niveau européen. Et ce qui est ressorti très fortement, c'est d'une part de renforcer l'identité européenne en votant l'Europe et en souhaitant que l'Europe démocratique prenne de plus en plus d'ampleur dans ses décisions, notamment concernant bien sûr la paix en Europe, mais aussi tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique qui, notamment par rapport aux jeunes présents lors du festival, était la première premières choses qu'ils ont dites, ainsi qu'une Europe plus sociale. Et donc, de ce côté social, la question des personnes âgées revenait aussi fortement. Donc, en fait, on s'est rendu compte que nos préoccupations étaient, quels que soient les âges, les mêmes, et que c'est justement pour ça qu'il fallait qu'on s'allie entre tous les âges pour faire face aux défis majeurs qui nous attendent, et qu'on va scruter, parce qu'on a décidé de continuer nos partenariats au-delà des élections, j'allais dire quel que soit le résultat, pour voir si ces préoccupations majeures étaient véritablement prises en compte par la suite.
Vous avez l'impression qu'on essaye toujours de séparer plutôt que d'unir les générations quand on s'adresse au public européen, quand on s'adresse aux citoyens ?
Eh bien, en tous les cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est lutter contre toutes les discriminations, les injustices, les pensées négatives liées à l'âge. Et surtout qu'on ne nous mette pas dos à dos, qu'on n'ait pas des décisions qui, de fait, nous mettent quasiment en concurrence. Je pense notamment à ce qui concerne l'emploi, où quand on essaye de faire en sorte que les personnes d'un certain âge ne se retrouvent pas au chômage et puissent participer à l'emploi, trop souvent, c'est décrit comme étant une manière d'augmenter le chômage des jeunes, ce qui est absolument faux. Donc, avec les jeunes, nous souhaitons, par exemple, lutter contre ce genre de stéréotypes et de ce qu'on appelle, en fait, l'âgisme.
Et l'Europe, c'est le bon forum pour lutter contre ces discriminations. Les institutions européennes, c'est le bon interlocuteur.
C'est indispensable d'avoir l'Europe en plus, si je puis dire, du niveau national. Il faut absolument qu'il y ait une prise en compte au niveau européen de ces questions liées aux âges et qu'il puisse y avoir une concordance, une cohérence entre les décisions nationales et les décisions européennes à ce sujet.
On dit souvent que l'Europe, c'est le vieux continent. On pointe du doigt l'âge moyen de l'Européen qui avance sans cesse. C'est une préoccupation dans une association telle que la vôtre ?
Nous sommes la génération du baby-boom qui avance en âge. Donc, de fait, et ça grâce à la paix sur notre sol depuis la dernière guerre mondiale, nous arrivons dans les années 2030 à un pic, effectivement, de personnes âgées. Hein. On parle aujourd'hui d'une population française qui augmentera seulement de 7,7%, mais d'une population de plus de 65 ans qui augmentera de 45%. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse prendre conscience et gérer cette pyramide des âges qui va en augmentant vers les plus âgés pour arriver à faire en sorte que nous restions une Europe harmonieuse et une Europe qui ne se joue pas dos à dos les âges.
Diane Bossière de l'association Hold Up.
No racism, accent d'Europe, en Irlande, où des grands-pères militent, et oui, contre le racisme et se réunissent toutes les semaines à Dublin.
Ils protestent pacifiquement contre la propagation de la haine, la preuve qu'on n'est jamais trop vieux pour défendre une cause qui vous tient à cœur. C'est un reportage de notre correspondante Clémence Pénard.
Get them out, renvoyez-les chez eux. Le 23 novembre dernier, des émeutes secouent la capitale. Des scènes de violence inédites en Irlande, alimentées par des messages de militants d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Alors pour Des, il est depuis devenu essentiel de donner l'exemple.
Younger people. Les jeunes pourraient penser que parce que nous sommes vieux, nous sommes des grands-pères conservateurs, que nous avons des tendances racistes. Nous voulons être très clairs, c'est tout le contraire. Nous ne voulons pas que les jeunes soient influencés par la multitude de messages racistes qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux et également de la part de groupes très à droite. C'est pourquoi nous sommes ici, au centre de Dublin, pour dire aux jeunes de ne pas se laisser influencer par ces messages.
Depuis les émeutes, les hashtags Ireland is full ou bien Irish Lives Matter, les vies irlandaises comptent, ont été partagés des milliers de fois sur Twitter, sans grande modération d'ailleurs de la part de la plateforme. Or, dans cet océan de haine, un tweet s'est démarqué. Il montre cette joyeuse bande de papis qui s'opposent aux manifs anti-immigrés. Le tweet en question a été vu plus d'un million de fois. Damien a justement rejoint le groupe après ce qui s'est passé dans la capitale fin novembre.
Je ne pensais pas que cela pouvait arriver. Et puis l'ampleur de la violence, c'était effrayant. Donc nous devons diffuser le message. L'Irlande n'est pas pleine. Il y a de la place pour tous ceux qui viennent.
Et pour Des, les jeunes devraient se rappeler de l'histoire irlandaise et notamment l'épisode de la Grande Famine qui a touché le pays dans les années 1850. On estime en effet qu'un million de personnes sont décédées et que 2 millions d'Irlandais ont dû fuir le pays pendant cette période tragique.
We've been welcomed.
Nous avons été accueillis par milliers après la famine et aussi à d'autres moments de notre histoire dans de nombreux pays. Nous aurions pu être confrontés à des messages disant « les États-Unis sont pleins, Birmingham est pleine ou Glasgow est pleine ». Mais non, non, partout nous avons été les bienvenus.
Aujourd'hui, avec leur simple banderole, les papis prouvent qu'ils peuvent faire le buzz et toucher toutes les générations, comme l'explique Joe McGuinness.
On aime voir les jeunes prendre des photos car on sait qu'ils vont les partager. Et ça fait des ricochets, ça va de plus en plus loin. Nous, on est là, on fait de notre mieux et puis on espère que d'autres reprendront le flambeau. On a aussi dit qu'on allait former un groupe pour les arrière-grands-pères contre le racisme. Mais comme on dit, le temps nous le dira.
Les grands-mères l'ont en tout cas déjà fait. Le groupe affilié Grandmothers Against Racism, lui, se donne rendez-vous tous les jeudis au même endroit.
Le thé au Royaume-Uni, c'est sacré, mais ce joyau de la couronne pourrait être menacé par les tensions actuelles en mer Rouge.
Oui, puisque les attaques des rebelles yéménites houthis ont des conséquences sur le commerce international.
Oui, on a pu voir Tesla, par exemple, réduire sa production à cause de la chaîne d'approvisionnement qui ralentit la production de véhicules. Au Royaume-Uni, c'est le thé qui est à la peine. On en parle avec notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Marie, le Royaume-Uni est un grand importateur de thé auprès de pays très dépendant de la navigation en mer Rouge.
Oui, le pays est le cinquième importateur mondial et plus de 50% de son thé provient d'Inde et du Kenya, deux pays qui emploient d'ordinaire cette route maritime. Résultat, le prix du thé augmente pour les Britanniques jusqu'à 4% pour certaines marques. Marco Forgione est le directeur général de l'Institut des exportations et du commerce international.
C'est dû en partie aux nouveaux coûts liés au transport. Il y a les retards à cause du changement de route maritime, il y a l'essence à payer en plus, ainsi que les assurances. Et puis il y a aussi la question de la disponibilité. Par exemple, un détaillant britannique a connu des problèmes d'approvisionnement en thé noir.
À ça s'ajoute la réduflation, dit Marco Forgione, quand un paquet de thé, par exemple, reste au même prix, mais qu'il y en a moins qu'avant dans la boîte. Sachant aussi que le changement climatique, qui réduit dans certains endroits les capacités de production, faisait déjà augmenter les prix depuis plusieurs années.
Les fournisseurs vont-ils pouvoir s'adapter si la situation perdure ?
Alors oui, selon Marco Forgione, des ajustements sont déjà en train d'être faits, mais ce n'est pas sans conséquence, dit-il.
La gestion des approvisionnements et stocks sera, à mon avis, beaucoup plus précise et rigoureuse, ce qui, à court terme, va perturber la chaîne d'approvisionnement globale, mais à moyen et long terme, ça devrait se résoudre tout seul.
C'est un peu a storm in a teacup, si vous me passez l'expression, une tempête dans un verre d'eau, mais ça met en lumière la question du prix du thé et les conditions de travail.
C'est vrai que les consommateurs britanniques affrontent une inflation nationale de 4,2% pour janvier 2024 encore, donc ils trouvent peut-être que le prix augmente déjà trop. Mais certains chercheurs estiment qu'il est trop bas ce prix pour que les conditions de travail sur les plantations de thé en Inde surtout soient bonnes, voire simplement adéquates. C'est en tout cas ce que démontre le travail de Nathalie Langford de l'Université de Sheffield.
Les plantations continuent de fonctionner sans respecter le droit du travail. Nous avons de nombreuses preuves de travail forcé. Il y a aussi ce que nous appelons les travailleurs qui ne sont pas libres. Le système en place ne se soucie pas d'eux. Ils vivent dans des logements délabrés, ont peu accès à l'éducation et au système de santé. Ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. De fait, ils sont coincés sur ces plantations. Même par rapport aux standards indiens, leur salaire est très bas.
Car ce salaire minimum n'est pas national, il varie selon les États indiens et dans certains, dit Nathalie Langford, il n'est pas fixe. Il dépend de la capacité ou de la volonté de négociation des syndicats avec les propriétaires des plantations. Les importateurs britanniques assurent qu'ils sont très vigilants sur les conditions de travail. Mais selon la chercheuse, il y a beaucoup de manières, en Inde surtout, où la législation permet de contourner ses engagements et obligations. Et puis aussi, les consommateurs britanniques seraient-ils prêts à accepter un thé plus cher s'il est plus vertueux ? Mais surtout, ses revenus en plus seraient-ils vraiment reversés aux employés pour améliorer leurs conditions de travail ?
Marie Billon à Londres pour Accent d'Europe. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Dans un instant, l'actualité continue sur Radio France Internationale.